débordement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débordement, l'émission d'écologie politique de Radio Pulsar, un rendez-vous mensuel pour partager des clés de compréhension sur les situations écologiques et sociales du Poitou autour d'un sujet par mois. Aujourd'hui, on va parler des mobilisations agricoles de ces dernières semaines et des implications écologiques et politiques de ces mobilisations. En plateau avec moi pour l'animation, je suis avec Anaïs. Salut Anaïs.
Salut.
Et Anaïs, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui a déclenché la colère du monde agricole, qui dénonce la concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs du Mercosur. Dans les pays membres du Mercosur, les réglementations sont bien moins importantes qu'en Europe et les coûts de production sont bien plus bas. Autrement dit, ce traité introduirait des produits à des prix imbattables sur notre territoire, entraînant de grandes difficultés pour les producteurs français. Mais les revendications ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est aussi question d'augmentation des revenus, de baisse des charges ou encore de simplification des normes. Il faut également noter que ces mobilisations sont l'occasion pour les trois principaux syndicats agricoles de se positionner, de se démarquer en quelque sorte pour les élections professionnelles agricoles qui se dérouleront du 15 au 31 janvier prochain. Et tout cela se déroule dans un contexte politique très particulier à l'échelle nationale, avec une motion de censure votée par l'Assemblée le 4 décembre dernier, qui a fait tomber le gouvernement Barnier, un vote qui a accentué la colère d'une partie du monde agricole, qui a vivement dénoncé, je cite, « l'irresponsabilité des députés qui l'ont voté ». Il leur est reproché de rendre caduques les avancées obtenues pour la profession agricole dans le budget 2025, qui finalement n'a pas pu être voté. Voilà pour le tableau général. Dans ce contexte, on se pose pas mal de questions. Comment expliquer d'abord l'opposition généralisée en France à ce traité de libre-échange avec le Mercosur? Le monde agricole parle-t-il vraiment d'ailleurs d'une seule et même voix à ce sujet? Quelle est la place de l'écologie dans ces mobilisations? Et peut-on compter sur cette séquence pour revoir en profondeur notre modèle agricole?
Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Jean Clerc, porte-parole de la Confédération paysanne de la Vienne. Bonjour Pierre-Jean Clerc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On sait que c'est une séquence très animée pour vous. La Confédération paysanne, c'est le troisième syndicat agricole en France. C'est un syndicat très engagé dans les mouvements écologistes. Et c'est un syndicat, je vais citer le site internet de la Confédération paysanne, qui défend une agriculture soucieuse du revenu des paysans, autonome de l'agro-industrie, ouverte aux pratiques alternatives, contre les dérives productivistes et contre des politiques agricoles dictées par l'industrie et le profit. Première question, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter pourquoi vous vous êtes engagé au sein de la Confédération paysanne ?
Alors moi je m'appelle Pierre-Jean, je suis paysan à Lussac-les-Châteaux dans le sud de la Vienne. Je suis associé avec ma femme, Marie. C'est une ferme familiale, donc la 5e, 6e, 7e génération. On a été associés tous les deux avec mes parents pendant une vingtaine d'années. Après, ils ont été salariés quelques années, puis maintenant, ils sont à la retraite. Donc, on a une ferme d'élevage, de polyculture élevage exactement. On a différents types d'animaux, des moutons, des vaches laitières, des vaches allaitantes, des volailles. Et on en a agriculture biologique depuis... presque une trentaine d'années. C'était mes parents qui s'étaient convertis à la fin des années 90. Et on fait de la vente directe. C'est-à-dire que tous nos produits sont transformés par nous-mêmes, élevés, transformés par nous-mêmes et vendus par nous-mêmes. Alors, ce qu'on appelle en circuit court, soit directement chez nous, à la ferme, soit avec un intermédiaire dans des magasins, des écoles, des choses comme ça.
Et donc, pour votre engagement à la Confédération paysanne, est-ce que c'est lié à cette activité en particulier? Enfin, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce syndicat?
Alors, pourquoi je me suis engagé en syndicat? Pourquoi déjà je me suis engagé syndicalement? J'ai une culture syndicale, surtout qui vient de ma mère. Alors, mon père aussi, mais ma mère était vachement investie syndicalement. Surtout au début des années 80, 90, au début qu'elle s'est installée avec mon père. Et elle s'est vraiment battue pour le statut de la femme dans le monde agricole. C'est quelqu'un qui sait où elle va, elle est féministe vraiment et elle ne pouvait pas supporter qu'au début des années 80, quand on est femme d'agriculteur, on est femme d'agriculteur et on n'est pas agricultrice. Donc elle s'est surtout battue là-dessus. Et donc j'ai eu cette culture. Donc pour moi, ça me paraissait normal de s'engager syndicalement. Alors comme je dis tout le temps, j'ai trois enfants, je leur explique, je trouve ça normal qu'aujourd'hui, tout citoyen, même si ce n'est pas le cas, s'engage dans la cité. Alors après, ça peut être sous forme associative, syndicale, politique, mais ça fait partie de ma culture et j'essaye de la transmettre à mes enfants. Et voilà. Pourquoi après la Confédération paysanne ? C'est que je pratique une forme d'agriculture, j'ai été éduqué, donc ça me paraissait logique d'aller vers la Confédération paysanne. Je me suis même pas posé la question, parce que quand je me suis engagé, alors je m'en rappelle plus, on s'est installé avec ma femme dans les années, milieu des années 2000. J'ai dû commencer, on est venu me chercher, je pense vers 2010, entre 2008-10. J'ai commencé à mettre un pied gentiment dedans. Ce qui était sûr, c'est qu'on s'est installé, on n'est pas allé vers les JA, un autre syndicat agricole. Ça nous tentait pas avec ma femme. Voilà, puis je suis allé à la Confédération paysanne parce que leurs idées me plaisaient bien. Et puis c'est surtout qu'en fin de compte, leur projet politique correspondait complètement à ce que nous, on mettait en place, ce qu'on avait mis en place, la ferme qu'on avait. Donc voilà comment je suis arrivé à la Confédération paysanne. Et puis après, vous savez comment ça se passe, on met un doigt dedans. Et on finit porte-parole. Voilà.
D'accord. Et donc la Confédération paysanne qui est opposée au traité de libre-échange avec le Mercosur, tout comme les deux autres principaux syndicats agricoles en France. Et pour bien comprendre les enjeux de ce traité et les différentes positions politiques et syndicales en France, on vous propose de prendre le temps de replonger dans l'actualité de ces dernières semaines.
Projet d'accord UE-Mercosur. Objectif de ce projet, supprimer la majorité des droits de douane entre les 27 États européens et les 5 pays d'Amérique latine. Un deal que certains résument par cette formule, viandes argentines contre voitures allemandes.
Pour que l'accord passe, il faut que les pays qui donnent leur feu vert représentent au moins 65% de la population européenne. On parle de vote à majorité qualifiée. A l'inverse, pour rejeter l'accord, il faut une minorité de blocage avec 4 pays minimum. Et pour ça, faites vos maths, ensemble ils doivent peser plus de 35% de la population.
Le mardi 26 novembre, l'Assemblée nationale a débattu sur une résolution pour acter l'opposition de la France au traité de libre-échange avec le Mercosur. On écoute les prises de parole de tous bords, à la tribune, de la gauche à l'extrême droite, toutes expriment une opposition à ce traité de libre-échange.
L'accord tel que la Commission l'envisagerait n'est pas acceptable et le gouvernement français et le président de la République s'y opposent donc pleinement, résolument.
Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, pas encore démissionnaire au moment de la prise de parole.
Mesdames et messieurs les députés, si cette opposition est ferme, elle n'a rien de doctrinaire et vous ne trouverez personne au gouvernement qui entende prohiber les échanges agricoles. Ne l'oublions pas, si nous nous opposons à cet accord, ce n'est pas par dogmatisme mais par pragmatisme, parce que les craintes graves qu'il a fait naître chez nous n'ont pas su trouver de réponse en 25 années de négociations.
Voilà 25 ans qu'ont débuté les négociations sur l'accord de libre-échange dont nous parlons aujourd'hui. 25 ans d'opacité pour arriver aujourd'hui au même deal mis au frigo il y a 6 ans.
André Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée.
Un accord de notre temps, de notre siècle, où le mythe néolibéral faisait encore rêver, où les vertus de l'expansion du commerce international étaient censées balayer toutes les craintes. Un siècle où la souveraineté alimentaire restait, pour beaucoup, un mot tabou. Un siècle surtout où la mesure du défi climatique et environnemental n'avait pas encore suffisamment pris corps dans nos sociétés. Quel constat faisons-nous un quart de siècle plus tard ? D'abord, que les fondamentalistes du marché sont toujours au fourneau de la Commission européenne. Le constat aussi que pèse si peu dans les orientations européennes les millions de tonnes de CO2, les millions d'hectares de déforestation supplémentaire de notre mère la Terre, les impacts sociaux et sociétaux inhérents au modèle de production intensif guidé par la seule rentabilité financière.
Pour la troisième fois en moins d'un an et demi, une assemblée parlementaire française est appelée à voter sur un projet d'accord qui depuis 25 ans est au cœur des espoirs des fonctionnaires bruxellois et des craintes de nos agriculteurs, un accord avec le Mercosur.
Hélène Laporte, députée Rassemblement National du Lot-et-Garonne.
Le 13 juin 2023, notre Assemblée a massivement voté pour appeler le gouvernement en place à maintenir sa ferme opposition à l'accord trouvé par les négociateurs en 2018, à défaut de garantie contre l'entrée sur le sol européen de produits ne respectant aucune des normes que nous imposons aux nôtres.
Je suis partisan du libre-échange et je suis un Européen convaincu. Je reste sensible aux vertus de l'échange et de l'ouverture, et j'accepte l'idée que l'Union européenne soit compétente en matière de conduite de la politique commerciale des États membres.
Daniel Labaronne, député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire.
Si je crois à la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, je sais que cette théorie ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une concurrence pure et parfaite. La Commission est-elle aussi attentive à ces principes de concurrence loyale quand il s'agit de signer des accords commerciaux internationaux ? Je ne le crois pas, et c'est bien là le problème qui se pose avec cet accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Nous devons impérativement garantir les intérêts de nos producteurs en négociant des clauses miroirs. Toute méthode de production interdite chez nous, comme l'utilisation d'antibiotiques de croissance, d'OGM ou d'hormones, et qui, bien souvent, n'est même pas détectable dans les produits, doit être bannie de nos importations.
La France est au pied du mur. La Commission européenne, en toute opacité, veut forcer l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Quitte à contourner le vote des parlements nationaux, comme l'avait déjà accepté s'agissant du CETA.
Arnaud Le Gall, député La France Insoumise du Val d'Oise.
Devant la colère des agriculteurs, vous essayez de vous dédouaner. Mais votre responsabilité est immense. Pendant des années, non seulement vous ne vous êtes pas opposé à cet accord, mais vous l'avez soutenu. Emmanuel Macron déclarait par exemple en 2019 « À ce stade, l'accord est bon ». 4 ans plus tard, en juin 2023, Olivier Becht, ministre du Commerce extérieur, affirmait « Nous n'avons jamais été opposés à la signature de cet accord, il faut évidemment conclure ». L'opposition à cet accord montant dans la société, la Macronie, elle est comprise, s'est depuis prétendue contre l'accord UE-Mercosur en l'État. En l'État, c'est-à-dire que vous soutenez le principe de cet accord, arguant qu'il suffirait de l'améliorer un peu. Depuis des mois, vous prétendez donc l'améliorer par l'ajout de clauses miroirs et quelques vagues engagements relatifs au respect de l'accord des accords de Paris pour le climat. Mais c'est se moquer du monde. Les négociations sur le fond sont achevées. Les détails du texte sont opaques. La Commission, en toute illégalité, en refuse l'accès aux parlementaires européens. Rien n'est vérifiable. Et quand bien même elles seraient inscrites dans le texte, ces clauses miroirs sont pour la plupart inapplicables dans les faits. Aucune clause miroir ne changera le cœur d'un accord qui vise, dans son principe même, à mettre en compétition des modèles de production agricole radicalement différents.
Le débat s'est donc achevé. Le vote est sans appel. 484 voix pour, 70 contre. Stéphanie Despierres, que va-t-il se passer maintenant, fort de ce vote sans appel français ? Eh bien, le gouvernement va pouvoir se prévaloir auprès de ses partenaires européens et de la Commission européenne en disant « Regardez, nous opposons à cet accord sur le Mercosur et toute l'Assemblée est derrière nous. » Alors, pas toute l'Assemblée, vous l'avez dit, il a manqué environ 70 voix, mais le gouvernement espère que c'est un signal important qui sera entendu par les autres pays membres de l'Union européenne.
Consensus dans l'hémicycle et consensus également dans les syndicats agricoles, y compris à la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, très proche du pouvoir.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un changement historique de la politique agricole française, la FNSEA, qui deviendrait anti-libre-échange ?
Non, non, pas du tout. Nous, on a redit qu'évidemment, il fallait continuer à échanger.
Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
On le fait et on a besoin de continuer à échanger, d'abord parce que dans un certain nombre de productions, on n'a pas ce qu'il faut, et notamment, par exemple, le soja. Et c'est pour ça qu'on travaille à un plan protéines pour essayer de réduire la dépendance européenne. Que ceux qui nous écoutent et qui boivent leur café ne l'auront pas directement en production européenne demain. Et puis que, par ailleurs, on a des produits exportés. Mmh. Nos fromages, nos céréales, nos vins spiritueux.
Du côté de la Confédération paysanne, engagée historiquement contre le principe même de libre-échange, l'opposition au traité est également formelle.
Je suis Mister Pognon. Vous inquiétez pas, je suis venu pour vous présenter notre tout dernier modèle d'accord de libre-échange, cette magnifique Merco, cette Mercosur, et elle est là pour venir conquérir des nouvelles parts de marché, ne vous inquiétez pas.
Donc on est là contre les accords de libre-échange du Mercosur, mais on est là contre tous les accords de libre-échange. Ça fait 30 ans que la Confédération paysanne s'oppose à ce type d'accord qui, du coup, est là pour accentuer tout le libéralisme. Et ce Mercosur est là pour venir, du coup, échanger des voitures européennes contre de la viande bovine d'Amérique latine. Et donc on sait très bien les conséquences que ça aura pour les producteurs français.
On écoute aussi Amélie Rebière, vice-présidente de la coordination rurale, répondre à une question de Karim Rissouli sur le plateau de C'est ce soir, qui lui demande quelles seraient les conséquences du traité sur son activité.
Si on ratifie le traité de libre-échange du Mercosur, on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire que, effectivement, on arrive au bout d'un système qui a été mis en place par une co-gestion pendant 40 ans. Un système où il faut, c'est le plus gros qui bouffe le plus petit, hein, excusez-moi de le dire comme ça.
Le cannibalisme agricole, je l'appelle ça.
Voilà. Donc, le problème, c'est que on est attendu vers un agrandissement des exploitations agricoles, vers, justement, une simple culture plutôt que de se diversifier comme on a pu le voir. Enfin, moi je suis en Corrèze, les exploitations en Corrèze, elles sont diversifiées, elles sont de taille moyenne, et c'est ça l'avenir de l'agriculture, c'est d'avoir des exploitations à taille humaine, des exploitations familiales diversifiées, parce que si on a un problème sur une production, on a l'autre derrière qui peut suppléer.
Sur le même plateau, Benoît Biteau, député écolo, résume en ces termes la problématique en toile de fond de ces discussions.
La crise autour du Mercosur, du moment, c'est l'illustration d'une dynamique qui a été créée à l'échelon national, européen, mais aussi international, de spécialisation de zones de la planète. C'est-à-dire qu'on a voulu faire du bloc russo-ukrainien le spécialiste des productions de céréales. On a voulu faire de l'Union européenne le spécialiste de céréales et de maïs. On a voulu faire du continent américain, le spécialiste de la production de protéines. Et donc quand on a fait ça, on a cru qu'on pouvait construire la sécurité alimentaire par des échanges planétaires avec ces zones spécialisées. Sauf qu'on voit bien les limites de cette spécialisation des zones.
C'est quoi les limites ?
Eh bien, on voit par exemple sur fond d'accident climatique la difficulté quand une zone de la planète ne sait plus produire autant qu'elle est capable de produire. On voit bien la difficulté quand on a un accident géopolitique comme avec l'Ukraine, la difficulté qu'on a à acheminer des céréales qui sont attendues à l'autre bout de la planète. À vouloir exporter du maïs, à vouloir exporter du blé, eh bien on a consacré nos surfaces dans des logiques exportatrices et il aurait fallu mobiliser ces surfaces, au contraire, pour satisfaire notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire diversifier notre production, s'attacher à produire ici ce qu'on est capable de manger ici, et ça nous aura embarqué dans des logiques agronomiques, de rotation des cultures, où on aurait eu moins besoin de pesticides, moins besoin d'engrais de synthèse, et allumer un cercle vertueux.
On vient d'écouter des extraits des débats qui ont eu lieu ces dernières semaines sur le traité du Mercosur. Quel est votre point de vue, vous, Pierre-Jean Clerc, sur ce traité de libre-échange ?
Comme vous l'avez entendu, ça a été dit par la Confédération Paysanne. Ils l'ont bien dit, nous, à la Confédération Paysanne, on a toujours été contre les traités de libre-échange. Mais ce que je pourrais rajouter par rapport à mon collègue là, qui parle, c'est qu'on ne pense pas qu'à nous. On pense aussi à nos collègues qui sont sur le continent africain, qui sont sur le continent américain, parce que c'est pas que ça a pas que des méfaits pour des gens comme nous, ça a aussi des méfaits pour nos collègues. Moi, on donne toujours l'exemple du lait. L'Europe est surproductrice de lait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce lait en poudre, on le balance sur le continent africain et on casse des filières en création là-bas, parce que ça coûte moins cher d'acheter du lait en poudre européen en surproduction que d'aller acheter du lait qui est produit dans des fermes au Sénégal ou des choses comme ça. Donc ça a bien. Alors je ne sais pas si c'est lié avec du libre-échange, mais en tout cas c'est pour dire que toutes ces logiques d'échange, Benoît Biteau le dit très bien aussi, toutes ces logiques d'échange, ça pose problème. Alors après, nous à la Confédération Paysanne, on n'est pas contre spécialement qu'on envoie du cognac en Chine ou aux États-Unis, mais on en voit aussi les conséquences. Le cognac, ça allait très bien... quand la Chine et les États-Unis achetaient 97% ou 98%, et puis là, depuis un an, il y a surproduction, ils ont décidé pour différentes raisons, on le voit avec l'élection de Trump, des choses comme ça, ils ont décidé qu'ils n'allaient plus en acheter, et le cognac, c'est en train de se casser la gueule. Donc, on voit bien aussi que, voilà. Donc, à la Confédération Paysanne, toujours ce qu'on a défendu, c'est de dire, toujours cet exemple-là, le libre-échange sur le mouton, ça existe depuis le début des années 80-90. Le jour où on a commencé à faire rentrer du mouton d'Angleterre et de Nouvelle-Zélande, le mouton, il s'est cassé la gueule. Et aujourd'hui, en 40 ans, on a perdu la production de moutons. Aujourd'hui, en France, on ne peut peut-être pas en produire partout, mais l'élevage de moutons, ce n'est pas un élevage simple, mais c'est un élevage résilient. Donc quand on parle de changement climatique, de choses comme ça, on pourrait se dire que c'est un élevage qu'on pourrait trouver partout en France. Aujourd'hui, l'agneau français part à l'île de Ré, à Paris ou dans le Sud-Est, parce que c'est un produit haut de gamme, intouchable. Alors pendant longtemps, il n'a pas été payé aux producteurs. Et il y avait des gens qui se coinfraient avec des marges et il était vraiment très cher. Depuis 4-5 ans, il commençait à être un peu payé, un peu mieux aux producteurs, mais il n'y a quasiment plus de producteurs. Par contre, les marges sont toujours aussi hallucinantes, donc c'est un produit qui est intouchable. Et pour nourrir la masse, on fait rentrer de l'agneau néo-zélandais et anglais. Et regardez, la prochaine fois, vous irez dans les grandes surfaces au moment de Pâques, l'agneau néo-zélandais, le kilo de gigot d'agneau néo-zélandais, prix au consommateur, est moins cher que le prix que nous, on nous le paye sorti de ferme. Donc il y a un truc qui va pas. Donc et j'ai rien contre les Néo-Zélandais. Je veux dire, il y a aucun problème. C'est des gens qui sont très sympathiques, qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc c'est pour ça qu'à la Confédération paysanne, on a toujours été contre les accords de libre-échange. Notre grande surprise, c'est que la FNSEA soit contre. La coordination rurale, je connais un peu moins. Sur certains sujets, la coordination rurale, on est raccord. Sur d'autres, on n'est pas du tout raccord.
Voilà. La question que j'allais vous poser, ouais, voilà. J'allais vous dire, vous dites qu'historiquement, du coup, la Confédération paysanne a toujours été opposé au libre-échange, qu'en est-il des autres syndicats? Est-ce qu'il y a eu des changements de positionnement?
La FNSEA, c'est non. Là, en fin de compte, pourquoi la FNSEA, ils sont contre, là? Parce que la base est contre. Donc la tête, comme les élections n'ont pas longtemps, il faut qu'ils soient contre. Mais rappelons quand même M. Rousseau, il est président de la FNSEA, il est président d'Avril. Avril, ils ont des succursales en Amérique du Sud. Donc au bout d'un moment, on sait très bien que la FNSEA, au moins la tête de la FNSEA, mais il faut qu'ils gardent leur population avec eux. Donc en fin de compte, ils sont obligés d'avoir un peu une image de façade en disant qu'ils sont contre ça. Mais par derrière, ils ne sont pas du tout contre le libre-échange. Je veux dire, en France, on a basé le syndicat majoritaire qui est complètement en cogestion. Et même le mot cogestion est faible aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par cogestion?
Depuis tout le temps, la FNSEA a décidé plus ou moins ce que devaient faire, les agriculteurs
français. En cogestion avec le gouvernement?
Avec le gouvernement, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que la FNSEA, c'est un syndicat avec une couleur politique. Non, ils sont toujours bien entendus avec toutes les couleurs politiques. Voilà. Alors, peut-être un peu plus de mal avec les extrêmes, des choses comme ça, mais en tout cas, avec ce qu'on a connu, moi, depuis que je suis né, il y a une quarantaine d'années, ou même avant, c'était, on faisait un coup à droite, un coup à gauche. La FNSEA, c'est toujours bien entendu avec les deux. Donc voilà, donc on est sur une co-gestion. La FNSEA verrouille tout. Le système agricole français, ça c'est une réalité. Je veux dire, il y a un livre qui est sorti sur l'agriculture bretonne, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le titre, mais il parle de pieuvre dedans. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais il parle de pieuvre. Donc, mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'au mois de janvier, au mois de février, il y a la base qui est sortie et qui a mis certains sujets sur la table. On en reparlera peut-être tout à l'heure, les sujets des histoires de contrôle, les sujets des histoires administratives. Donc dans ce qu'ils disent, il y a des choses qui ne sont pas complètement fausses. Après, ce qu'on a l'habitude de dire, nous, c'est que on est sur le constat, on est à peu près, on va dire, de temps en temps d'accord avec les autres syndicats. Là où on ne tombe pas d'accord, mais quand je vous dis on ne tombe pas d'accord, c'est que même des fois, il n'y a plus de discussion possible, c'est sur la mise en œuvre de comment on résout tous ces problèmes.
On va y revenir dans le deuxième temps. Peut-être ma dernière question, ce serait si ce traité il est ratifié, vous, qu'est-ce que ça change concrètement dans votre activité demain?
Alors moi, personnellement, je ne sais pas si ça a changé grand-chose, parce qu'en fin de compte, mes parents, et puis nous, on a continué, en fin de compte, il y a une quarantaine d'années de contradicteurs, nos opposants disent qu'on est dans un marché de niche, que ce qu'on pratique, ça peut être que nous, qu'on peut être que quelques-uns à le faire, ça. On n'a jamais essayé. Donc on ne peut pas savoir si on peut le faire à grande échelle ou à petite échelle. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'arrêté, c'est fait à petite échelle. Ça a aussi des inconvénients à l'agriculture qu'on pratique, hein, parce qu'on ne fait pas qu'un métier, on fait plusieurs métiers. Nous, à la Confédération Paysanne, on n'est pas en train de dire il faut que tout le monde soit en bio, tout le monde soit en direct. On est en train de dire ayons une logique sur la réduction des pesticides, ayons une logique sur la réduction de l'azote, ayons une logique sur comment on peut... je dirais relocaliser, mais quand je dis relocaliser, je parle pas de c'est-à-dire comment on peut créer des coopératives de taille humaine et pas des mastodontes nationaux voire internationaux à une échelle départementale, régionale ou grande région. Ça, on pourrait être capable de le faire. Et en fin de compte, on est sur une logique d'import, d'export. Et la FNSEA peut pas être contre les libre-échange parce qu'en fin de compte, elle a basé son marché des céréales sur l'export. Donc,
Okay. En tout cas, l'opposition à ce traité de libre-échange aujourd'hui en l'état fait consensus entre les différents syndicats agricoles, malgré ce qu'on vient d'évoquer. Et comme on le disait en introduction, les revendications ne s'arrêtent pas là. Et pour bien le comprendre, on se replonge dans l'actualité de ces dernières semaines.
La trêve n'aura pas duré. 9 mois après avoir secoué la France, la colère des agriculteurs ressurgit lentement mais sûrement. Comme ici à Poissy aujourd'hui devant la préfecture, revenus agricoles, normes jugées trop contraignantes, les raisons n'ont pas changé, mais la météo catastrophique des derniers mois et les mauvaises récoltes ont aggravé le ressentiment. À peine nommé, Michel Barnier pourrait donc lui aussi faire face à la fureur des tracteurs.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'hiver dernier?
Rien du tout, il ne s'est rien passé.
Que des promesses non tenues, comme d'habitude.
Coupez le moteur! Coupez le moteur!
Vous comprenez pas, si. Vous serez pas à la place.
Mais vous êtes agriculteur.
Vous serez pas à la place des veuves, des gamins.
Mais non, mais
une fois que je serai en prison, je serai comme les cassos.
Déjà, vous travaillez.
Sortirez
le préfet, là, on en serait pas là.
Stop, c'est bon.
C'est réglé, espèce de connard.
Dans les campagnes, le Mercosur n'est pas le seul motif d'inquiétude. Les récoltes ont été mauvaises, les épizooties touchant le bétail se sont multipliées et Lactalis, le numéro 1 mondial des produits laitiers, va moins acheter de lait dans les fermes françaises.
La stratégie de Lactalis, c'est de ne plus collecter en France parce que le lait est devenu trop cher. C'est vraiment une logique quoi, qui met à mal et met à mort finalement les éleveurs ici en France. Quoi.
Les agriculteurs dénoncent toujours la faiblesse de leurs revenus et se disent accablés par la paperasse, comme si peu de choses avaient changé depuis les blocages et les manifestations de l'hiver dernier.
Dès mon arrivée au ministère de l'Agriculture, j'ai eu le souci de délivrer
Annie Genevard, alors ministre de l'Agriculture.
Des dispositifs qui répondaient à leurs attentes, des réponses rapides, concrètes. C'est quand même.
Enfin, la FNSEA, à ce même micro la semaine dernière, dit on a tout quand même toujours rien vu venir. Alors, concrètement.
Écoutez, il y a ce qui se dit dans un contexte électoral, puis il y a la réalité des choses. 300 millions d'allègements de charges qui vont être votés dans quelques jours au Sénat et au Parlement. L'indemnisation des surmortalités animales. C'est fait, le guichet est ouvert, le soutien à la trésorerie qui est indispensable parce que quand vous n'avez plus de revenus, ben c'est l'angoisse, le désarroi et on ne peut pas laisser les agriculteurs dans cette situation. Les premiers décaissements se feront avant la fin de l'année. Non, les réponses, la difficulté si vous voulez, c'est que entre le moment où les agriculteurs demandent, où on délivre des dispositifs qui sont adaptés et puis l'arrivée dans la cour de ferme, ben il y a quelques semaines, c'est vrai, mais le concret des choses, ils le verront très très vite.
Donc vous êtes confiante pour le mois de janvier-février ?
Écoutez, moi je pense qu'on s'adapte aux circonstances du moment.
Des pneus déversés dans les rues de Strasbourg. Des panneaux démontés comme l'hiver dernier en Ariège. Ou des ronds-points occupés et des radars bâchés dans le Tarn. Les agriculteurs sont toujours en colère. Et depuis quelques jours, ils le font de nouveau savoir.
C'est l'État qui nous aime, qui est là bienveillant. C'est ce même État, main dans la main avec l'Europe, qui fait rentrer des denrées alimentaires du monde entier, des denrées alimentaires à bas coût. Donc le double jeu, c'est terminé. C'est terminé le double jeu.
On a besoin que cette colère s'exprime et elle est légitime. On envisage donc aujourd'hui de repartir en mobilisation à partir de la mi-novembre.
Les agriculteurs déclarent déjà que ces nouvelles manifestations pourraient être encore plus dures que celles du début de l'année.
Le soir du 19 novembre, des agriculteurs du syndicat Coordination Rurale ont saccagé les locaux de l'Office français de la biodiversité, OFB, à Guéret dans la Creuse. La veille, c'était un autre syndicat, la FDSEA, qui s'attaquait à l'organisme public dans l'Oise. Depuis le début de l'année 2024, le Parisien a recensé 36 actions ciblées contre l'OFB pour le premier semestre et 8 attaques au mois d'octobre. L'une d'entre elles aurait pu coûter la vie à un agent. Pour justifier ces attaques, les syndicats dénoncent le trop grand nombre de contrôles des exploitations par les inspecteurs de l'OFB, qui sont chargés de faire respecter le code de l'environnement. Par exemple, ils font respecter les restrictions de consommation d'eau en période de sécheresse, surveillent l'entretien des haies ou encore la pollution des cours d'eau. De nombreux agriculteurs considèrent même les réglementations environnementales comme des contraintes sans contrepartie et vivent parfois ces contrôles comme une provocation.
Ils sont arrivés avec des parpaings très tôt ce matin, en plein centre de Paris. Plus d'une centaine d'agriculteurs ont érigé un mur pour bloquer l'entrée de l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
Je vois rien venir depuis 20 ans. Elle sert à rien, l'INRA.
S'il y a quelqu'un qui pond des règles et des sur-règles et qui surtranspose, c'est bien à l'initiative de chercheurs et de chercheurs qui travaillent pour le gouvernement comme l'INRA.
À quelques kilomètres de là, un autre mur, mais cette fois-ci de carton, a été monté symboliquement devant l'ANSES, à Maison-Alfort, l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
On invite l'ANSES à déménager à Bruxelles pour qu'ils nous fassent les mêmes normes que les autres pays européens.
Car les agriculteurs réclament une égalité de traitement pour tous les pays européens.
Pourquoi nous, on applique des normes plus restrictives que nos voisins, nos propres voisins italiens ? C'est incompréhensible pour nous.
Ouais.
Il va y avoir de la violence, j'en suis convaincu.
De la violence.
Mais écoutez,
elle est inévitable aujourd'hui.
Quand on n'y maîtrise plus les troupes, qu'est-ce que je vous dise ?
Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale.
On se souvient de l'année dernière de ce qui s'est passé. En janvier, ceux qui voulaient aller prendre Rungis, ceux qui voulaient bloquer les autoroutes, etc. Pour vous, ça peut être pire que ça cette année.
Ce que ne dit pas monsieur, excusez-moi, j'interviens, c'est que, parce qu'il est fier et il ne veut pas le dire, il y a beaucoup d'agriculteurs dans une extrême pauvreté et dans une extrême précarité, qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un suicide sur deux jours. Il ne veut pas le dire, c'est normal. Mais c'est une extrême précarité. Ce n'est pas parce qu'il y a des céréaliers qui peuvent rouler dans des voitures superbes que ça fait là aussi la majorité du genre. Il y a des gens qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas nourrir, malgré que ce soit des agriculteurs, leurs enfants tous les jours. Est-ce que c'est normal dans ce pays ? Voilà.
Je vous vois très ému, Christian Convert.
Oui. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens, ils n'en peuvent plus. Donc, ces gens-là, ils n'auront plus rien à perdre, de toute façon. S'ils soient foutus, ils n'auront plus rien à perdre. C'est là qu'il y a tout le danger. Donc, c'est pour ça. Enfin, moi, je suis. Maintenant, je vois les gens sur les salons, tout ce qu'on a vu, si jamais le Mercosur se signe, c'est l'explosion, c'est tout.
On vient d'entendre les revendications de différents syndicats agricoles suite à ces mobilisations, des revendications qui vont au-delà des enjeux concernant le Mercosur. Quelle agriculture défendez-vous à la Confédération paysanne ? Quelles sont les revendications que vous portez, vous, de votre côté ?
Vous l'avez dit en début d'émission. Nous, à la Confédération paysanne, on a un projet politique. En gros, on peut le résumer. Alors, il y a différents points, je vais sans doute en oublier, mais on parle de paysannes et de paysans nombreux. On parle d'une logique agroécologique. Ça ne veut pas dire qu'on demande à sortir totalement des pesticides, mais c'est-à-dire qu'on a une réflexion autour de comment on peut diminuer. On parle d'une logique de relocalisation de la production de la nourriture. Donc il y a différents points, en fin de compte, à ce qu'on défend à la Confédération paysanne. En fin de compte, on demande de changer de modèle. Donc on change de modèle, on rigole un peu de ça avec nous en disant voilà. Parce que le modèle qu'on propose, on ne dit pas qu'il est parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que le modèle qui existe aujourd'hui, les chiffres le disent. Après, ce qu'ils disent, les paysans, ils n'ont pas complètement tort. En fait, quand on est passé, alors moi je ne suis pas historien, mais à la sortie de la guerre, on était 40, 50 ou 30% de la population, je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, on est 2%. Donc de toute façon, le modèle qu'on pratique depuis la sortie de la guerre 39-45 pose problème parce qu'il n'y a plus de paysans. Les fermes sont immenses et en fin de compte, toute génération, et on le voit bien, même nous à la Confédération paysanne, souvent nos fermes sont plus grandes que celles de nos parents. Alors, je vous parle d'agriculture familiale, mais que nos parents étaient plus grandes que celles de nos grands-parents. Donc déjà, ça pose question. Pourquoi à chaque fois, on est obligé d'avoir plus d'animaux, plus de surface, plus d'hectares de légumes, plus de scie pour pouvoir avoir à quelque chose près à peu près le même revenu. Donc de toute façon, il y a une problématique de fond et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Après, c'est quelle est la mise en œuvre pour arriver à sortir de ça, en fin de compte.
Dans la dernière séquence, il nous semble que la Confédération paysanne a été moins présente que la FNSEA ou la coordination rurale dans le paysage médiatique. Est-ce que c'est un choix de votre part ?
Alors, oui. Ils avaient tous annoncé qu'au mois de novembre, vers le 15 novembre, ils allaient ressortir pour différentes raisons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, c'est moins qu'au début de l'année. La raison est simple, au début de l'année, c'est la base qui est sortie. Là, c'est la tête qui a demandé à sortir à la base, et donc ça a moins matché qu'au début de l'année. Surtout qu'en plus, je pense que une partie des gens qui sont sortis au début de l'année, ils ont demandé des choses, alors après qu'on peut justifier normal ou pas, mais qu'ils n'ont pas eu. Mais ça, après, on a l'habitude de ça. Donc c'est pour ça que c'est nous, la Confédération paysanne, on est sortis. Alors déjà, il faut être aussi réel, on sort. Mais on est quand même moins visible et alors après, vous allez me dire, je suis peut-être parano ou je sais pas quoi, mais on sait pas pourquoi les médias nous rendent moins visibles. Parce que moi, je suis, j'ai différents types de réseaux où je suis tout ce qui se passe au niveau de la Confédération paysanne, du département, de la région. Et je peux vous dire que tous les départements font des efforts. Je donne un exemple. La semaine dernière, jeudi dernier, le 5-6 décembre, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Grand Palais. Il y a eu 5 personnes de chez nous qui sont allées en garde à vue. J'ai pas eu l'impression que ça faisait la une. Déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi il y a une différence de traitement entre les gens de la Confédération paysanne qui faisaient une manifestation pacifiste, qui ont été nassés, où on a pris des gens dedans, qui sont restés un certain moment en garde à vue, on sait même pas les conséquences derrière, exactement ce qui va se passer, et les autres qui peuvent détruire certains outils de l'État sans que ça pose de problème. Donc voilà. Donc,
on sait que par exemple Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, il a un peu ses ronds de serviette dans toutes les grandes radios et dans toutes les grandes chaînes de télé de France. Il a facilement accès à ces plateaux. Du côté de la coordination rurale, on est sur des actions coup de poing, comme ils les qualifient eux-mêmes. Et du coup, ça fait aussi un écho médiatique un peu plus important, notamment sur les chaînes d'infos en continu, où on cherche ce genre d'actualité. Donc c'est aussi peut-être ça qui explique la différence de traitement médiatique.
J'ai pas la raison, parce que bien sûr qu'on va à des médias. Moi, dans la Vienne, on a un collègue, Nicolas Fortin, il fait partie du SN. Donc ils sont 7 au SN, il y a la porte-parole Laurence Marandola, puis après ils sont 6 autres, il en fait partie. Donc j'ai beaucoup de contacts avec lui, il passe beaucoup de temps dans les radios régionales et nationales, et nous on le voit. Mais on a quand même l'impression d'avoir même visible, parce que là, depuis le début du mois de novembre, on a fait pas mal d'actions, des actions sur le Mercosur. On a fait pas mal de trucs sur le Mercosur. Alors, quand je vous parle de ça, je parle pas spécialement dans la Vienne, mais dans toute la France. Il y a eu des actions sur une logique, quelque chose qui est en train de changer, où en fin de compte, l'État est passé sur tout ce qu'on appelle nos calamités agricoles. Ils sont passés sur une système d'assurance privée. Et donc, en fin de compte, on a eu pas mal d'actions autour des assurances privées en disant qu'on allait dans le mur avec ce genre de système. Que c'est à l'État de prendre en charge quand il y a des problématiques climatiques qui sont liées au revenu paysan. Et nous, à la Confédération Paysanne, on parle toujours de la même chose, du revenu. Et quand on parle de revenu, c'est-à-dire d'avoir un revenu digne, d'avoir du temps disponible et d'avoir une sécurité sociale et des retraites entendables. Voilà, c'est toujours ce sujet-là. Donc, on fait des choses. Pourquoi c'est moins visible? Alors, je vais vous dire quand on est visible. On est visible quand on va dans les manifestations anti-bassines et que ça part complètement en vrac. Donc, pourquoi? Parce qu'habituellement, on fait des manifestations qui sont plutôt paisibles, tranquilles, personne ne nous voit, et dès que ça part en vrac, bah là, la Confédération paysanne est traitée d'éco-terroriste. Donc, moi, en prenant un peu de recul, ça me pose vraiment des questions. Pourquoi on ne veut pas que notre projet politique, notre discours, soit entendu? Ou alors soit retransmis, et en fin de compte, il n'y a que les gens convaincus qui vont aller le chercher, qui vont aller le comprendre. Mais autrement, pour la population, ça serait intéressant qu'on puisse aussi être là en tant que contradicteur.
On a prévu de revenir dans le prochain temps sur les différences de traitement, effectivement, entre les différentes actions des différents syndicats. D'ici là, je me demandais, est-ce que vous avez un regard sur ce que les mobilisations agricoles de ce début d'année ont provoqué? Est-ce que ça a permis certaines avancées ou pas, selon vous? Voilà.
Ouais, alors oui, sur certains sujets. Alors, on peut pas nier, mais je pense pas que c'est qu'un problème agricole. On a une problématique de logique administrative en France, et c'est vrai que dans notre métier, on est des paysans, on travaille en plein air, et souvent, mais il y a plein de gens qui disent la même chose. Des médecins vont vous dire ça, des présidents d'associations vont vous dire ça. Il y a plein de gens qui disent qu'en fin de compte, le côté administratif est très pesant. Alors, est-ce que l'administration n'est pas liée à la démocratie? Je sais pas, moi, je pose des questions, je peux pas vous le dire. Il y a certains jours, moi aussi, le premier, je me dis, waouh, c'est compliqué. Alors, après, on a aussi 20 ans, 30 ans de... plus de fonctionnaires. Donc derrière, c'est aussi ça la problématique. C'est pas que la contrainte administrative, c'est de plus avoir de gens humains formés qui puissent nous aider, nous répondre, des choses comme ça. Parce que peut-être que si on avait plein de normes, plein de contraintes administratives, mais qu'en face on avait plein de gens qui pouvaient nous accompagner, nous aider, peut-être qu'on l'avalerait beaucoup plus facilement. Donc par contre, voilà. Donc sur ces contraintes-là, ils essayent de faire des efforts, mais de toute façon, ils sont en train d'écouter le syndicat majoritaire. Et donc, l'humain serait... Je sais pas, alors moi je suis un peu naïf hein, des fois, mais l'humain serait honnête. voilà, alors là je parle vraiment en général, hein, je parle pas que du monde paysan. Bah oui, on pourrait avoir plein de règles en moins, mais on sait très bien comment ça va se passer. Dès qu'on va enlever des règles, en fin de compte, il y a des gens qui vont rentrer tout de suite dedans. Et donc elles ont aussi, des fois c'est bien qu'il y ait certaines règles. Par contre, on est d'accord que la problématique c'est pas spécialement les règles, c'est comment elles sont appliquées. Parce qu'il y a vraiment, des fois, s'il y a des choses qui sont complètement aberrantes en fin de compte.
On va continuer de parler de tout ça et particulièrement de la lutte syndicale pour les prochaines élections professionnelles. Mais avant ça, on écoute Cyril Mon Amour de La Bulle Crack. Mm-hmm.
C'était Siri, mon amour, de la fanfare Poitvine, la bulle crack. Vous écoutez Débordement, l'émission d'écologie politique de Radio Pulsar. On est en compagnie de Pierre-Jean Clerc, porte-parole de la Confédération paysanne de la Vienne. On a encore pas mal de questions à lui poser sur les luttes syndicales en cours. Mais avant ça, on replonge dans l'actualité pour bien comprendre ce qui s'est joué ces dernières semaines.
La coordination rurale est coutumière des actions coup de poing. Ce syndicat agricole menace de s'en prendre aux fêtes alimentaires à partir de demain s'il n'obtient pas satisfaction. Une annonce sur fond de rivalité avec un autre syndicat agricole, la FNSEA, à quelques mois d'élections syndicales cruciales. Il reproche à la FNSEA de ne pas s'opposer frontalement au Mercosur.
Leur base est contre, mais les dirigeants sont pour à 200%. C'est eux qui détiennent les coopératives comme Avril, la Cooper, et ainsi de suite. Quoi. Des mastodontes de l'agriculture qui vont faire du commerce à l'international.
La FNSEA, premier syndicat agricole, avait elle-même manifesté hier. Elle a revendiqué 85 points de rassemblement dans toute la France.
Les jeunes agriculteurs des Deux-Sèvres à nouveau en colère. Cette nuit, ils ont déposé 300 panneaux de ville devant la préfecture de Niort.
Opération coup de poing des jeunes agriculteurs la nuit dernière devant la préfecture de Niort.
Là, on met les panneaux qu'on a tous démontés, là, qu'on a démonté tous nos communes, là, tout le département.
Des pancartes à la place du traditionnel fumier. La méthode change, les revendications, elles, restent les mêmes.
Comme partout en France, Poitiers et plus largement le Poitou ont été le théâtre de très importantes mobilisations agricoles ces dernières semaines. Mais le 20 novembre, tous les projecteurs étaient braqués sur le palais des congrès du Futuroscope où se tenait le congrès national de la coordination rurale, un syndicat qui n'est pour l'instant majoritaire que dans 3 départements en France, dont la Vienne et la Haute-Vienne. On écoute l'intervention à ce congrès de François Turpot, le président de la coordination rurale 86.
La Vienne agricole est un département en zone intermédiaire, mais très diversifié. Tout cela grâce à des producteurs investis, passionnés et fiers de ce qu'ils produisent. Parmi eux, il y a des irrigants, dont l'avenir est plus qu'incertain ici dans notre département avec nos opposants. Je les appelle les anti-tout parce que ils sont multiples et avec leur position extrême et contradictoire, ils vont nous anéantir, mais soyez-en sûrs, nous nous battrons ici, comme on l'a fait cet été à Mel. Dans la Vienne, nous avons des agriculteurs qui pratiquent des pratiques variées. Donc on a des agriculteurs en bio, des agriculteurs qui transforment à la ferme, des agriculteurs qui font de la vente directe, qui valorisent leurs produits de manière plus juste. Mais il ne reste plus que 3000 agriculteurs, soit moins d'une dizaine par commune. Mais nous avons la chance d'avoir un député agriculteur, Monsieur Turquois. Mais il s'abstient de toute prise de position sur les sujets agricoles. Il est donc inutile pour la cause agricole. Il qualifie même les adhérents de la coordination rurale de populistes. Il préfère appeler ouvertement les agriculteurs à voter pour le syndicat qui protège mieux les intérêts de l'agro-industrie et son boss, le président de la République. Que cela ne tienne, ici nous sommes sur une terre de combat. Tels Clovis et Charles Martel, Philippe et Jean-René nous ont permis en 2019 de battre la FNSEA 86 et mettre fin à leur règne à la Chambre d'agriculture. Nous sommes maintenant sur une terre CR. Cet après-midi, en clôture du congrès, nous allons partir en action vers la centrale d'achat Leclerc, au Nord-Charente, à la Scacha, avec force et courage.
On a tout fait pour pas glisser.
Bonjour à tous, bon, moi c'est pour vous montrer notre installation. Donc là on se trouve devant l'Ascachap, la centrale d'achat Leclerc à Ruffec. Donc les accès sont bien bloqués. Les tracteurs sont encore chargés mais on va pouvoir les déverser dans pas très longtemps. Au fond là-bas on peut apercevoir une entrée où il y a du dépôt qui a été fait. Des tracteurs sont en attente.
sont en train de préparer à manger.
Et c'est la corvée de
patates. Donc l'épluchage des pommes de terre, voilà, tout se passe bien. Donc si vous venez, vous serez, on a ce qu'il faut pour vous recevoir et on va tenir le temps qu'il y a à tenir et on est prêt à tenir. Voilà. Allez, à très vite.
Ouais, bon, mais bonjour tout le monde. Bon, mais nous, on est en train de se tremper la gueule.
José Pérez, coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
On part vers Bordeaux. On va aller bloquer le fret alimentaire. On va aller bloquer. Virer toutes les productions qu'on ne nous autorise pas à produire chez nous.
Attention, attention. Vous participez à un affrontement. Vous devez quitter les lieux et vous disperser. Dans les informations, nous allons faire usage de la force.
Les élections au mois de janvier, puisque c'était votre question et que je ne veux pas m'y dérober.
Arnaud Rousseau, président de la FNSEA.
Elles arriveront au mois de janvier et je crois qu'à ce moment-là, les agriculteurs jugeront sur la capacité qu'ont leurs différents représentants professionnels à aller chercher des solutions. Si certains pensent que le chaos est un avenir pour l'agriculture, ils prendront leurs responsabilités. Nous, on dit, c'est difficile, c'est pas tenable dans un certain nombre de régions. Nous, on a encadré depuis 48 heures dans 85 départements des actions en indiquant très clairement qu'on voulait pas d'atteinte aux biens aux personnes. Parce que vous savez, c'est très facile d'appuyer sur le bouton. C'est très facile demain pour le responsable national que je suis de dire on va utiliser la violence. Simplement, quel avenir ça nous prépare? Quel est le niveau de responsabilité qu'on a? Est-ce que l'agriculteur, dans sa ferme, quand il réfléchit deux minutes, il pense que le fait d'avoir tout cassé, ça va lui préparer un avenir?
On voit donc des différences de style, des modes d'action d'un syndicat à l'autre. On a un syndicat très actif sur le terrain, très visible avec ses bonnets jaunes, la coordination rurale, connue pour ses actions coup de poing, et discrédité par le syndicat majoritaire, la FNSEA, et son président qui se disent plus constructifs, plus intéressés par les solutions. Alors ça fait réagir l'humoriste Walidia, on écoute sa chronique à ce sujet sur Mediapart.
Qui mieux que le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, propriétaire d'une ferme céréalière de 700 hectares, la moyenne c'est 80, mais bon, qui est aussi président du groupe Avril, qui détient les marques Le Sieur et Puget, et il est actionnaire de plusieurs entreprises agro-industrielles, et puis il est aussi maire de Trossy en Seine-et-Marne, mais c'est parce que le week-end il s'ennuie. Qui mieux que lui pourrait se soucier de l'avenir des petits agriculteurs? Je vois pas, je sais pas. Oui, il faut soutenir les agriculteurs, les petits en particulier, mais entre la FNSEA et ceux qui prenaient des selfies avec Bardella au salon de l'agriculture, je ne sais plus trop qui faut soutenir. T'sais.
Salut Walidia. Dans ta chronique de Mediapart, tu t'interroges sur les syndicats agricoles. Mais qui défend les petites fermes? C'est la Confédération Paysanne. Qui se bat pour relocaliser la production et les emplois agricoles? C'est la Confédération Paysanne. Qui propose une alimentation saine et durable? C'est la Confédération Paysanne. Qui veut sortir du libre-échange pour favoriser la coopération entre les paysannes et les paysans du monde, c'est la Confédération Paysanne. Qui maintient et installe des fermes en polyculture élevage pour une réelle souveraineté alimentaire, c'est la Confédération Paysanne. Alors, soutiens nos actions, parle de nous et on gagnera les chambres d'agriculture en janvier 2025. On t'invite d'ici là, en Béarn, à manger la garbure et découvrir nos beaux métiers. A bientôt, Wally.
Pour revenir aux manifestations agricoles, l'élément déclencheur est bien la signature d'un énième accord de libre-échange. Celui avec le Mercosur. Après celui avec le Chili, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Canada, etc. Ce libre-échange que combat la Confédération Paysanne depuis 40 ans, qui met en concurrence tous les paysans du monde, qui les oblige à se spécialiser pour produire toujours plus, qui les oblige à produire plus pour toujours moins cher, qui les oblige à produire moins cher et donc toujours plus mal. Voilà notre combat. Si nous avons voulu aujourd'hui matérialiser tous ces paysans disparus par ces paires de bottes vides, c'est pour leur rendre hommage. Non, vous n'avez pas disparu parce que vous étiez de trop. Non, vous avez disparu parce que l'agro-business et la FNSEA l'avait décidé. Et notre volonté à nous, la Confédération Paysanne, c'est de lutter contre vos bourreaux pour remettre des paysans, des paysannes dans ces bottes. Parce que c'est l'avenir de nos campagnes et de nos enfants. Donc je le dis tout net, continuons à nous battre. Allons voter en janvier pour la Confédération Paysanne.
Dans les dernières semaines, de nouvelles actions de contestation ont été menées par les différents syndicats agricoles. Suite à la motion de censure du gouvernement Barnier, des permanences de députés qui ont voté la censure ont été prises pour cible par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Des bennes ont été par exemple déversées devant la permanence de Lisa Bellucco, députée de la première circonscription de la Vienne. La Confédération paysanne, quant à elle, s'est rassemblée à Paris devant le Grand Palais pour dénoncer la spéculation sur les céréales et à cette occasion, les militants se sont fait nasser par la police et 5 d'entre eux ont été placés en garde à vue. Certains députés dénoncent un deux poids, deux mesures. Comme vous le disiez tout à l'heure, certaines actions syndicales seraient plus réprimées que d'autres, et en l'occurrence celle de la Confédération paysanne. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de traitement ?
J'ai pas d'idée. Alors si je peux pas vous répondre. Le seul truc, c'est que je vais quand même répondre à M. Rousseau, l'acteur, qui disait que la CR, et je suis pas là pour défendre la CR, hein, vraiment, mais ça fait pas longtemps que la CR, ils ont la FNSEA, si on prend l'histoire de la FNSEA depuis 60 ans, là. C'est juste hallucinant, le mode d'action qu'ils avaient. Je veux dire, je crois qu'il y a un historien qui a fait un livre sur tous les modes d'action, mais ils ont fait des choses hallucinantes. Ils ont cassé, ils ont brûlé. Il y a quand même eu pas mal de dégâts. Donc, au bout d'un moment, quand la FNES commence à dire... Alors, parce que ça a commencé avec nous, Confédération Paysanne, quand il y a, après toutes les manifs autour de l'eau, on nous traitait d'éco-terroristes, tout ça... Là, doucement, parce qu'il ne faut pas avoir de mémoire. Mais ça les arrange, on est dans de la politique politicienne, donc ça les arrange. Et maintenant, quand ils critiquent la CR, mais en fin de compte, c'est quoi les gens de la CR ? C'est juste des anciens de la FNSEA, et c'est la branche un peu la plus dure. Donc c'était ceux qui étaient avant la FNSEA qui cassaient, bah, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est exactement. Et puis que la FNSEA aujourd'hui, c'est juste qu'on est dans... comme c'est de la politique, et bah, faut que derrière, Rousseau, il essaye de faire croire... Alors par contre, après, à votre question, pourquoi il y a deux poids, deux mesures ? Je ne suis pas capable de le dire, mais... J'ai commencé à me rendre compte de ça, où je me suis dit, waouh, t'as mis complètement de côté le moment gilet jaune. Moi, j'étais dans la ferme, je bossais, voilà. On a cru à un moment qu'il y aurait peut-être une convergence de tous les syndicats, on y allait un petit peu, mais les gilets jaunes, il y avait un peu tout, voilà. Donc c'était pas facile, je m'y suis pas trop intéressé. Et après, on a parlé vraiment de violence avec les gilets jaunes. Moi, quand on a commencé sur les combats, différents combats de l'eau, différents sujets, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une réalité. Vraiment, en réalité, il y a des gens, quand ils tiennent un certain discours, ben, ils prennent sur la gueule. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et là, ce qui s'est passé la semaine dernière devant le Grand Palais, c'est-à-dire que, quand même, le résumé, c'est qu'en France, quand on attaque l'État, ça ne pose pas de problème. Quand on attaque le capital, ah ben là, ça pose vraiment problème. Et surtout que là, on a nassé des gens qui avaient une action pacifiste. Il n'y avait rien de mal, ils n'ont rien fait de mal. Au pire, il y en a certains, ils sont rentrés dedans. Donc, expliquez-nous. Moi, je voudrais vraiment qu'on nous explique. Voilà. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la population se pose la question. Mais, d'un autre côté, je me fais une autocritique. Moi, je ne me suis pas vraiment posé de question quand les gilets jaunes en prenaient. Voilà. Il faut le vivre, en fin de compte, après, pour se poser la question. Mais je n'ai pas vraiment de réponse. J'aimerais bien avoir la réponse. Alors après, j'ai peut-être des réponses, mais on en débattra plus tard.
En janvier, auront lieu les élections syndicales. Qu'est-ce que ça représente comme une élection syndicale ? Quel pouvoir ça donne d'être majoritaire à un niveau départemental ? Voilà, qu'est-ce qui se joue durant ces élections ?
Il se joue plein de choses. Il ne se joue pas que d'avoir la chambre d'agriculture. Parce que mine de rien, la chambre d'agriculture, quand on l'a, d'accord, la chambre d'agriculture est l'outil des agriculteurs d'un département. Donc c'est verrouillé par la FNSEA depuis. La Confédération paysanne a eu quelques chambres à des époques, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Réunion, des choses comme ça. La CR a eu, je sais plus, le Calvados, le Lot-et-Garonne, depuis tout le temps. Et puis, depuis les dernières élections, la Vienne et la Haute-Vienne. Il y a plusieurs choses. Il y a quand même une chose, c'est une histoire de représentativité. En gros, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, c'est ce qui reprochait aux syndicats. Nous, syndicats Confédération Paysanne, comme les autres, fait partie du côté des institutionnels. Donc il faut être capable de pouvoir danser sur différents pieds, des fois être dans le côté institutionnel, relation avec le préfet, les députés, les sénateurs, les politiques, tout ça, que ce soit au niveau départemental, régional ou national. Donc déjà, ça joue ça, c'est-à-dire que si on va aux élections chambres, c'est pour pouvoir avoir une légitimité derrière. Et là, on peut prendre l'exemple de la Vienne. Dernières élections chambres, il y a 6 ans dans la Vienne. Premier syndicat qui gagne, la coordination rurale. Deuxième syndicat, la FNSEA avec les JA. On peut redonner les chiffres, hein, 42% pour le premier, 38% pour le deuxième et nous 22%. Mais si on prend le deuxième, c'est deux syndicats. Je suis désolé, deux syndicats, c'est 38 divisé par 2, ça fait 19. Donc en fin de compte, le deuxième syndicat de la Vienne, jusqu'au 31 janvier 2025, c'est aujourd'hui la Confédération Paysanne. Monsieur Girier, pour ne pas le nommer, nous a rencontrés une fois quand il est arrivé, et après, il n'a jamais voulu nous rencontrer. Alors je vais raconter des choses, mais par exemple, tout simplement, nous dans la Vienne, on a beaucoup de... On n'est pas d'accord souvent avec la coordination rurale, mais on a plutôt des relations pas trop mauvaises avec Monsieur Turpo, Monsieur Tabarin, ce qui n'est pas du tout le cas dans le département voisin, par exemple, la Haute-Vienne. Et donc, au moment de la crise agricole au mois de janvier, à chaque fois que la préfecture, l'État faisait des choses et qu'il rencontrait tous les autres syndicats, c'est François Turpo qui m'a appelé pour me dire « Bah, t'as pas encore été invité ». Et en fin de compte, donc là, je sais pas, moi je suis juste bête et méchant, j'ai été à l'école pendant 20 ans et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qu'on nous avait appris qui s'appelait la démocratie. Et donc là, nous sommes un syndicat institutionnel, nous sommes représentatifs parce qu'on est le deuxième syndicat de la Vienne, nous avons plus de sièges à la Chambre que la FNSEA et que les JA. Pourquoi on n'est jamais invité? Après, c'était un préfet politique. Voilà, le nouveau préfet est arrivé, on l'a rencontré la semaine dernière. Je ne dis pas que ça va changer les choses, mais voilà. Donc quand vous me posez la question à quoi ça apporte, c'est ça. Première question, c'est qu'on est une visibilité, qu'on ait un pied dans les institutions. Ça change. Après, il y a un autre débat, que ça change. Ça, on en parlera un autre jour. Après, il y a quand même une logique aussi de financement. De financement agricole. Le nombre de voix et le nombre de pourcentages qu'on fait derrière qu'on a un calcul pour financer nos syndicats. C'est pour ça que la FNSEA, ils ont verrouillé tout le truc. Parce que, mine de rien, ils ont toutes les chambres, ils ont une masse qui arrive et ça finance leurs syndicats. Donc, voilà. Donc voilà. Et puis après, il va y avoir la chambre.
Là, on parle de processus d'invisibilisation de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, pardon. On voit quand même une montée en puissance de la coordination rurale, à la fois au niveau départemental, on l'a observé aux dernières élections, et au niveau national. Est-ce que vous savez l'expliquer? Est-ce que vous avez des éléments d'explication de ce phénomène?
Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment le dire. Nous, on a un projet politique qui est compliqué. Et en fin de compte, la coordination rurale, ils répondent simplement à des problèmes. Mais pourtant, il y a plein de sujets où on est d'accord, il y a plein de sujets où on n'est pas d'accord. Mais quand le monde agricole ne va pas bien, les gens qui travaillent dans le monde agricole, ça ne va pas bien. Donc en fin de compte, quand il y a des gens qui sont acculés, qui sont à bout, ils ne veulent pas entendre un discours compliqué avec des perspectives qu'on n'est pas capable de dire si elles vont se faire ou pas. Ils ont besoin donc... J'aime pas trop dire ça parce que j'ai l'impression d'avoir un discours un peu péjoratif. Je veux pas critiquer mes collègues paysans et on est souvent pas d'accord avec la coordination rurale, même il y a certains sujets où on est complètement vraiment pas d'accord parce qu'il y a certaines gens de la coordination rurale qui ont des discours que moi je peux pas entendre. Mais il y a aussi une forte diversité à la coordination rurale. Donc, mais voilà, je pense que la simplification du discours fait que ça parle à beaucoup de gens. Et quand on est dans des situations de crise, je sais pas comment dire ça, c'est plus simple.
Merci beaucoup Pierre-Jean Claire pour ces éclaircissements. On arrive au terme de cette émission. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci encore à vous Pierre-Jean Claire d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Anaïs pour l'aide à la préparation et à l'animation de cette émission. On va rester alerte sur ce qui se passe en cette fin d'année dans le paysage politique et dans le monde agricole. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir, nous poser des questions, proposer des sujets à l'adresse débordement au pluriel @radio-pulsar.org. Débordement, c'est tous les deuxièmes samedis du mois sur Radio Pulsar à 11h et en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit au mois prochain.